RFI, grand reportage, Hassan Diop.
C'est une omerta à l'échelle d'un État. 30 ans après la répression sanglante du printemps de Pékin, eh bien le régime chinois maintient un étanche couvre-feu médiatique sur cette nuit du 3 au 4 juin 1989 où l'armée populaire de libération a ouvert le feu sur une jeunesse chinoise réclamant davantage de démocratie et moins de corruption. 30 ans ont passé, Tiananmen n'est toujours pas entré dans les manuels d'histoire en Chine. Une amnésie générale qui empêche les familles des victimes de faire leur deuil. RFI est allé à la rencontre des anciens du 4 juin, restés à Pékin, des témoins surveillés et toujours bâillonnés trois décennies après cette tragédie. Tiananmen, la mémoire volée du 35 mai, c'est un grand reportage de Stéphane Lagarde.
Des cris, des chuchotements, tous les témoignages que vous allez entendre dans ce reportage ont été recueillis en Chine populaire 30 ans après ce qui reste comme l'un des grands tabous de l'histoire officielle, la répression sanglante du printemps de Pékin dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. Les portes du taxi claquent, nous sommes arrivés au sud du deuxième périphérique de Pékin. Le pas pressé, nous repensons à ces 4 T qui terrifient les autorités chinoises. Tibet, Taïwan, les terroristes du Xinjiang et Tiananmen. 30 ans après les affrontements sur la plus grande place du monde, les témoins du 4 juin ne peuvent toujours pas raconter leur histoire. Pour les rencontrer, il faut parfois faire le tour. Allez, on y va. On est donc près d'un grand mur gris. Là, on approche d'un hôpital.
Yu, un yuan, c'est le yu, c'est la droite. Un, c'est le sang.
Le sang et la droite. Et on est discret, évidemment, parce que, enfin, autant qu'on peut, on va essayer d'aller voir quelqu'un qui est assez surveillé et qui doit de temps en temps se rendre dans cet hôpital pour des soins.
On va voir un monsieur qui s'appelle Qi Zhiyong. Il a été l'ancien étudiant pendant le...
Pendant le mouvement du 4 juin. On arrive devant la porte, on va passer tout droit.
On va essayer d'entrer à l'entrée du nord.
L'entrée principale, en tout cas, il y a des...
Il y a des policiers. J'ai vu deux policiers.
Deux policiers à l'entrée d'un hôpital et nous n'avons pas rendez-vous. Pas facile de joindre nos interlocuteurs. Avant de rencontrer cet ancien étudiant blessé dans sa chair il y a 30 ans, nous avons reçu de sa part une photo montrant un véhicule de police prise depuis sa fenêtre, signe que le passage n'est pas libre, puis des indications concernant des visites à l'hôpital qu'il effectue tous les deux jours. Des messages codés pour des témoins sous haute surveillance. Gao Yu, ancienne journaliste et première intellectuelle arrêtée de Tiananmen.
Pendant les périodes sensibles, il me force à voyager. En raison du 30e anniversaire du mouvement, cette année, je voyage beaucoup. Sinon, il me surveille. Depuis le 16 janvier dernier, des agents civils sont plantés devant chez moi. Ils ont voulu m'empêcher d'aller chez Zhao Zeyang. Avec mes amis, j'ai insisté pour remettre une couronne de fleurs à la famille de l'ancien secrétaire général du parti qui a soutenu les étudiants en 1989. Le bureau de la sécurité intérieure m'a dit que je vais troubler l'ordre public.
Il a choisi un numéro particulier. À la fin, c'est
89-64
pour le 4 juin 1989, une fin de numéro souvent choisie par les anciens du mouvement. Mais ici, la ligne est coupée et forcément surveillée. Gao Yu.
Je laisse mon portable principal à la maison quand je sors, car je crains que les gardiens me suivent. Je sors avec un autre portable que j'utilise uniquement pour consulter mes contacts. C'est difficile d'organiser des rendez-vous. On doit prévenir les personnes face à face. Avec mes amis, le téléphone est souvent coupé. À la mort du mari de Mme Ding Ziling, ils ont coupé le Wi-Fi chez cette mère de Tiananmen. Quand je lui écris un message, elle ne le reçoit pas. Les hautes technologies, les systèmes de reconnaissance faciale servent à surveiller les individus. Oui, ces technologies avancées servent d'abord à nous contrôler.
Un chant qui s'envole dans le ciel du printemps, une flûte accrochée à une fenêtre et des oiseaux à la fête dans les arbres à pagodes. La sieste vient de se terminer dans cette académie musicale du nord de Pékin, au milieu d'un petit parc des bâtiments de 5 étages pour loger les professeurs. Et derrière une porte, un sourire de 82 ans. Vite, vite, entrez.
Je viens de me lever. Il y a des gardiens dehors. Pour l'instant, il n'y a personne, mais ils vont arriver.
Il y a quelques minutes, il y a quelqu'un qui arrive.
Tout à l'heure, il y aura des gardiens à la sortie. Comment allez-vous faire pour sortir ?
Zhang Xingling est inquiète pour ses hôtes, mais elle nous remercie d'être venue. Les visites se font rares à cette époque de l'année, confie cette maman du collectif des maires de Tiananmen. Les yeux pleins d'une malice tout enfantine, visiblement amusée par le fait que nous ayons pu déjouer la vigilance des agents en civil au pied de son immeuble. Elle a beaucoup de choses à dire. En peu de temps, le débit s'accélère.
Cette année est une année sensible en raison du 30e anniversaire. Des policiers en civil sont là pour empêcher les journalistes de passer. Il y a deux gardiens en permanence qui surveillent. L'un est posté à la sortie de l'ascenseur, l'autre à l'entrée du bâtiment. Ils ont été particulièrement vigilants pendant la réunion des deux assemblées à Pékin et pour Qingming, le jour des morts. Cette année, c'est pire que d'habitude. Depuis plusieurs semaines, je fais l'objet d'une surveillance constante. Même pendant la fête du printemps, ils étaient là. Et il y en a qui montent la garde la nuit. Attention, car les policiers vont bientôt arriver. Quand vous sortirez, préparez-vous. Il n'y a pas de souci pour moi, mais pour vous, comme vous êtes étrangers, vous serez forcément interrogés.
Des octogénaires, des nonagénaires surveillés 24 heures sur 24 aux frais du contribuable chinois, le déni a un prix pour la deuxième économie du monde. Mais qu'ont donc fait ces femmes pour faire aussi peur au pouvoir central ? Elles ont simplement quelque chose à raconter, l'histoire d'un enfant, d'un fils tué dans la répression il y a 30 ans. La première à l'avoir fait s'appelle Ding Jiling, Gao Yu.
Ding Jiling était ma prof à l'université et comme elle était aussi la responsable de notre classe, j'étais très proche d'elle. C'est pour elle que j'ai voulu aider les maires de Tiananmen. Le 3 juin 1989, j'ai été arrêtée et à ma libération, j'ai voulu aller la voir car j'ai appris que son fils avait été tué par l'armée. Elle pleurait beaucoup. Je lui ai demandé de raconter son histoire que j'ai envoyé ensuite à un journaliste de Hong Kong qui l'a publié. Après, Madame Zhang Xianling m'a raconté elle aussi l'histoire de son fils. Et comme ça, nous avons fait connaître l'histoire des mères de Tiananmen au monde entier.
Les 127 mamans du collectif des mères de la place de Juin ne sont plus que 72 aujourd'hui. Le temps fait disparaître les témoins, mais n'efface pas la mémoire des vivants. Trois décennies plus tard, Zhang Xianling est assise sur son canapé en face de nous. Elle a décroché le portrait de son fils qui trône au milieu du salon, Wang Nan, mort à 19 ans.
À l'aube du 4 juin, mon fils prenait des photos. Il se trouvait au sud de la rue Nanchanje, près de la place Tiananmen. Les militaires lui ont tiré dessus. J'ai découvert son cadavre 8 jours plus tard, le 12 juin, ou peut-être le 13. Je ne m'en souviens plus très bien. Je savais qu'on lui avait tiré dessus et qu'il n'était pas mort immédiatement. Il perdait beaucoup de sang. Un groupe d'étudiants qui suivaient les soldats est arrivé au sud de la rue Nanchanje. Ils ont senti que son corps était encore chaud. Mon fils perdait son sang. Alors, ils lui ont fait un pansement d'urgence à la tête. Et puis, ils ont voulu le transporter à l'hôpital. Il fallait aller vite à cause de l'hémorragie. À ce moment-là, un officier de l'armée leur a interdit de transporter mon fils, la zone étant placée sous couvre-feu. Les ambulances sont arrivées par le nord. Là encore, l'armée a interdit de porter assistance aux blessés. Les soins de ses camarades n'ont pas suffi. Il est mort après le départ de l'ambulance. Les étudiants ont voulu ramener les morts à leurs parents, mais c'était interdit. On ne pouvait pas déplacer les corps en raison du couvre-feu. Mon fils a donc été enterré sur place avec deux autres étudiants. Ils ont creusé un trou à l'intérieur de la cour du lycée numéro 28, près de la place Tiananmen. Il était très jeune. Il venait de finir les exercices militaires au lycée. Il portait donc l'uniforme de l'armée. Et les soldats ont cru que c'était l'un des leurs. Son cadavre a été déterré, puis transporté à l'hôpital Rougouosu. L'armée a confirmé plus tard que ce n'était pas un militaire. C'est comme ça que j'ai pu retrouver mon fils.
Le corps d'un fils se retrouvait dans l'agonie d'un printemps. Celui qui nous reçoit à présent était également place Tiananmen, le 4 juin 1989. Les mains tremblent dans les feuilles de thé. Lui non plus n'a rien oublié de ces jours de souffrance.
À l'aube du 4 juin, vers 5 heures du matin, je me suis rendu place Tiananmen. À l'époque, mon appartement se trouvait non loin du boulevard de Changanjie. J'ai marché vers l'ouest sur le boulevard et j'ai vu des grilles déplacées au milieu de la chaussée. La foule avait dressé des barricades pour tenter de freiner les véhicules de l'armée. Il y avait des bus calcinés, des véhicules militaires aussi. Il y avait des pierres sur le sol. Les manifestants les avaient probablement utilisées pour repousser les soldats dans la nuit. Une fois arrivé au pont de Jian Guomen, j'ai vu un cadavre. Il semblait avoir été écrasé par un char. Le sang, les entrailles et le cerveau étaient par terre. C'était horrible à voir. J'ai continué à marcher jusqu'au carrefour Nanshize. Il y avait une épaisse fumée noire dans le ciel de la place de Tiananmen. De la fumée provenant des véhicules militaires calcinés. Puis au carrefour, de nouvelles barricades. Des manifestants s'y abritaient. Les soldats étaient à 200 mètres. Ils pointaient leurs fusils sur eux. Et derrière les soldats, il y avait les chars, la bouche du canon tournée vers l'est. Les manifestants criaient des slogans « Abat Li Peng, abat le fascisme ». Je me souviens d'une mare de sang sur le trottoir. La victime avait dû ramper avant de s'arrêter près d'un poteau téléphonique pour y inscrire ses deux caractères avec son propre sang. Tao Xue, Tao pour réclamer et Xue pour le sang. Autrement dit, une dette de sang.
Roulement de tambour, roulement des baguettes façon mitraillette, la révolution est toujours à recommencer, chante Pangu. Comment qualifier ce qui s'est passé place Tiananmen il y a 30 ans, autrement que par le terme de massacre? L'historien Zhang Lifan.
Bien sûr que c'est un massacre. Comment appeler autrement des soldats qui ouvrent le feu sur la foule et qui poursuivent ceux qui tentent de s'échapper? Un ami m'a raconté ce qu'il faisait au matin du 4 juin. Il ne s'intéressait pas particulièrement à la politique, mais il devait rejoindre des amis pour une partie de pêche. Il a enfourché son vélo et il a pris l'avenue Changin pour rejoindre ses amis. Il a alors remarqué que les cabines téléphoniques étaient criblées de balles. Et puis, à l'angle de la rue, il a vu un char. Le tank avançait vers lui. Il était terrifié. Il a cherché à se cacher sur un bas-côté, mais il y avait des grilles. Il a pu passer les barreaux. Sinon, le char l'aurait écrasé. Chaque témoin a ses propres souvenirs de l'événement. Chacun conserve une pièce du puzzle. Et avec cette mémoire morcelée, nous essayons de reconstruire le calendrier des faits. Un jour, peut-être, aurons-nous accès aux archives conservées par l'autorité centrale. Cela dit, je ne crois pas que ce soit pour maintenant. Tant que le pouvoir central n'est pas stable, il n'ouvrira pas les archives. Si le pouvoir est rassuré, il pourra le faire. Autre possibilité, si le pouvoir se sent menacé, là, il pourrait accepter de révéler toute l'histoire en échange de sa survie. La Chine est isolée avec la guerre commerciale contre les États-Unis. À l'intérieur du parti, des courants politiques s'affrontent. Personne aujourd'hui ne voudra prendre le risque de dévoiler ce qui s'est passé à Tiananmen.
Tiananmen, amnésie générale. Ce ne sont pas les oies de Zhongzhuang qui diront le contraire. Nous sommes à une quarantaine de minutes à l'est de la capitale chinoise, quand ça roule bien. Non loin de la rivière Shaobai, un village aux caméras visiblement endormies, au fond d'une cour, l'atelier de Ji Feng. L'artiste était l'un des meneurs des manifestations de Guiyang, la capitale de la province du Guizhou, en 1989.
Toutes les provinces suivaient ce qui se passait à Pékin. Le 19 mai, par exemple, quand les universités pékinoises ont entamé une grève de la faim, les étudiants de province ont fait pareil. Le lendemain de la première manifestation dans la capitale, le 26 avril, nous étions dans la rue. Des centaines de milliers de manifestants ont défilé devant la mairie de Guiyang. Il y a eu aussi des rassemblements à Chengdu, à Wuhan et à Xi'an. Les anciens de Tiananmen parlent, mais chez les jeunes, seule une minorité est au courant. Les événements du 4 juin n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, seuls ceux qui disposent de VPN en Chine peuvent contourner la censure et parviennent à s'informer sur Internet. Si vous ne regardez que les chaînes d'État, vous n'entendrez jamais parler du printemps de Pékin. Et si un jour la vérité éclate, vous verrez que la plupart des Chinois seront très étonnés. Après le 4 juin 1989, la presse s'est tue. On nous a volé notre histoire.
À la contrôle des passeports et des pièces d'identité à l'entrée.
Vous êtes journaliste?
Yes.
Vous venez ici pour quoi?
Just visiting.
Juste pour visiter, je comprends. Bon, normalement, vous savez que pour les journalistes, Tiananmen requiert une autorisation. Pour ce lieu, il faut une autorisation.
L'État garde l'œil rivé sur les anciens du printemps de Pékin, sur les lieux de la tragédie aussi. Détecteurs de métaux au point de contrôle, bouquets de caméras accrochés aux lampadaires, la place Tiananmen est devenue un sanctuaire comme l'université en Chine.
Tout ce qui se dit à l'université est enregistré. Les professeurs font cours devant des caméras. Ils peuvent être placés devant leurs responsabilités à tout instant. Sur les campus, on encourage les enseignants et les étudiants à la délation. Certains profs ont perdu leur travail après avoir été dénoncés par leurs élèves. C'est un peu comme dans 1984. Personne ne se sent en sécurité. Tout le monde se méfie.
On vient de passer l'entrée. On a fait l'entrée principale, on a évité, mais l'entrée derrière, en tout cas, il n'y avait pas de policiers, il y a des gardes simplement de l'hôpital. C'est joli, il y a beaucoup de verdure. Alors là, on va mettre des masques.
C'est l'hôpital de maladies contagieuses.
Voilà, moi je voulais amener une radio pour faire semblant d'être un patient. Et là, c'était un peu ridicule parce qu'effectivement, heureusement que je n'ai pas fait ça, c'est pas du tout l'hôpital pour cela. Là, on voit d'ailleurs sur les panneaux, ça te fait rire, mais c'est pas drôle. Hein.
Ouais.
Avec une radio dans un... Non, et on voit les panneaux avec département des maladies infectieuses, département du sang aussi.
Tu vois, la caméra surveillance sont partout.
C'est au cinquième étage, c'est ça?
Quatrième étage. Quand on sort de l'ascenseur, c'est à droite.
Allez, on y va.
On baisse la tête et on file tout droit vers les ascenseurs. Quatrième étage, la porte s'ouvre, un couloir à droite, une infirmière assise devant la porte de la chambre. On continue, 6 ou 7 lits, des tuyaux, des cathéters. Chi Jeyong est allongé. Bonjour Monsieur Chi, comment allez-vous?
Ouais, toi aussi. Ah.
Je souffre d'un dysfonctionnement rénal grave. Je fais une dialyse tous les deux jours.
On n'a pas réussi à vous joindre au téléphone.
C'est normal, ils contrôlent mon portable. Ils ont confisqué mon ancien numéro de portable, celui dont le numéro finit par 8964. Ils l'ont pris pour empêcher les journalistes de venir me voir. En ce moment, je ne peux même pas rentrer chez moi. Je loge dans la banlieue de Pékin.
Hey, vous ne pouvez pas rester là.
C'est pas grave. Je suis là à cause du 4 juin, vous savez. J'étais devant l'entrée du Conseil d'État, la porte sud.
Il faut partir maintenant. Il faut vraiment que vous partiez. Allez.
Oui, on s'en va.
J'ai été blessé par un tir dans la jambe rue Liu Bukou le soir du 3 juin, le matin du 4 juin. J'ai été touché par balle et j'ai dû être amputé.
Sortez tout de suite. Vous ne pouvez pas voir les patients maintenant.
Une jambe coupée au genou dans la nuit du 3 au 4 juin et l'hépatite C transmise lors de l'amputation à l'hôpital où il était soigné. 30 ans après, M. Chi porte les stigmates de la répression armée place Tiananmen. Zhang Lifan.
La Chine a été terriblement blessée par cette histoire. La douleur durera encore très longtemps, je pense au moins 2 siècles. Avant le 4 juin 89, la réflexion politique a été interdite pendant des années. Puis nous avons survécu à l'époque de Mao. 1989 a été une libération. Tout le monde se passionnait pour le bien commun et pour la politique. Avec le 4 juin, ça s'est arrêté d'un seul coup. Les Chinois d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne s'intéressent plus à la société, ni même à leur pays. C'est le règne du chacun pour soi et de l'égoïsme. Nous jouissons de nouvelles richesses. Nous sommes comme dans un rêve éveillé. Mais les valeurs et la morale ont disparu. On ne parle plus de politique. Même les élites du régime, qui ont subi quelques revers pendant le printemps de Pékin, ont préféré abandonner leur carrière officielle pour se lancer dans les affaires.
Une société sans mémoire dans une république populaire de l'amnésie, pour reprendre le titre d'un ouvrage publié par une consoeur de la radio publique américaine au moment du 25e anniversaire. 3 décennies ont passé depuis que la jeunesse de Chine a été coupée dans son élan. 30 ans et le portrait du vieux Mao est lui toujours là, témoin muet du sang versé, trônant face à la plus grande place du monde. En attendant de sortir de ce coma de Pékin, comme l'appelle l'écrivain Ma Jian, nous dédions ce reportage aux victimes de cette terrible nuit de juin, il y a 30 ans, place Tiananmen. Tiananmen, mémoire volée du 35 mai, un grand reportage de Stéphane Lagarde avec le bureau de RFI à Pékin, à la réalisation Eva Piedel. Yeah.